rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Bonjour à tous. Bienvenue au rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne. Et parce que trouver une bonne lecture s'avère souvent un choix cornélien, voici notre sélection du mois parmi les nouveautés de la bibliothèque. Aujourd'hui, deux romans. Un français, Les heures souterraines d'Hugo Lindenberg. Un roman américain, Hystérique collective de Lionel Shriver. Et deux BD, chacune scénarisée et dessinée par des femmes. Les femmes ne meurent pas par hasard de Charlotte Rothman et Alison Ferney. Et La tête dans les nuages d'Emmanuel Friedman et Céline Bayeux. Et nous terminerons par un roman policier serbe, Le chant des méduses d'Otto Holtvanji. Et nous allons commencer avec Les heures souterraines. Les heures souterraines d'Hugo Lindenberg. Après le succès d'Un jour ce sera vide, récompensé par le prix du Livre Inter en 2021, Hugo Lindenberg publie ce troisième roman bouleversant, Les heures, les années souterraines. Il suffit parfois d'un lieu pour que toute une enfance remonte à la surface. Dans les années souterraines, donc c'est bien les années, hein, c'est pas les heures. C'était un titre de Delphine de Vigan d'ailleurs, les zones souterraines, il y a quelques années et qui était pas mal. Mais là, on parle bien des années souterraines. Alors Hugo Lindenberg, il nous entraîne dans un appartement du 15e arrondissement de Paris. Un logement ordinaire, mais chargé de souvenirs douloureux. Le narrateur est architecte. Il vit en Californie depuis 20 ans avec sa conjointe. Lorsqu'il doit revenir à Paris pour vendre l'appartement familial, hérité après la mort de son père. Un retour contraint dans ce 8e étage où il a vécu, ou plutôt survécu, pendant 10 ans. Car cet appartement est le théâtre d'une enfance fracturée. À 6 ans, après le suicide de sa mère, l'enfant est confié à un père qui n'en voulait pas et qui ne sait pas l'aimer. Un homme muré dans le silence, auprès duquel il grandit avec le sentiment d'être un intrus, voire un imposteur. Coupable, dit-il, du simple fait d'être son fils. En revenant dans ces lieux, il n'arrive d'abord pas à franchir le seuil de l'appartement. Mais c'est petit à petit qu'il va se familiariser avec l'environnement, le quartier, les habitants. Et petit à petit, chaque rue, chaque pièce devient un déclencheur de mémoire. Et ce sont toutes les sensations, les détails enfouis du quotidien qui ressurgissent. La grande force de ce roman, c'est l'écriture d'Hugo Lindenberg, une prose fine et riche à la fois, qui parvient à dire des choses très dures avec une grande douceur. On sent son regard de psychologue clinicien attentif à toutes les nuances des émotions. Et il déploie un talent singulier pour saisir l'indicible de nos sentiments, capter les perceptions de l'enfance, explorer ses blessures et la manière dont elles façonnent toute une vie, orientent nos choix. Mais même si on devine des échos autobiographiques, l'auteur lui-même a perdu sa mère très jeune et a été élevé par son père, le livre reste profondément romanesque. Il crée une distance qui permet au récit de ne jamais tomber dans la plainte. Et bien au contraire, le narrateur ne s'oppose pas en victime, mais en observateur. Il tente de comprendre et peu à peu, il reconstruit le fil de son histoire. Et malgré la gravité du sujet, le livre n'est jamais pesant. Il y a des rencontres lumineuses, une jeune veuve, un voisin serviable, qui viennent éclairer ce parcours de reconstruction. Car c'est bien de ça qu'il s'agit. Du courage de regarder en face ce qui a fait mal pour pouvoir avancer. Après les années souterraines, donc c'est un magnifique roman sur le deuil, sur le manque d'amour et sur la transmission et la paternité. C'est un texte sensible et profond qui confirme qu'Hugo Lindenberg est vraiment l'une des voix les plus justes de la littérature française contemporaine.
Eh bien, dis donc, ça donne vraiment envie. Ah non. Alors, le truc, c'est que tu viens de parler d'un roman qui est pas facile. Et moi, je vais enchaîner avec une BD pas facile. Le sujet est dur. Les femmes ne meurent pas par hasard. Rien que le titre, il nous interpelle un peu quand même. Hein. Cette BD parle de féminicide, mais elle le fait avec beaucoup d'intelligence et beaucoup d'humanité. Le titre est fort. Les femmes ne meurent pas par hasard, ça interpelle vraiment. Parce que derrière ces drames, il y a presque toujours la même mécanique. Des violences qui s'installent petit à petit, des mots qui blessent, des menaces. Et parfois un entourage qui ne voit pas ou qui ne comprend pas, qui ne veut pas voir aussi. La BD revient sur plusieurs histoires vraies. Et ce qui frappe, c'est à quel point ces femmes pourraient être n'importe qui. Une amie, une sœur, une collègue. On en connaît presque tous une, pas loin de nous. Une phrase m'a beaucoup marquée. Elle dit « La violence ne comprend pas avec les coups ». Elle commence bien avant. Et c'est exactement ce que montre ce livre. On sent aussi le travail de journaliste de Charlotte Rothman. C'est documenté, précis, mais toujours accessible. et le dessin d'Alison Ferney accompagne parfaitement le récit. C'est sobre, très juste, très humain. Ce n'est pas une BD facile, sûrement pas, mais c'est une BD nécessaire. Une BD qui fait réfléchir, qui éclaire et qui donne envie d'ouvrir les yeux. Et pour moi, c'est clairement un coup de cœur. Alors, j'avoue que j'ai passé des moments pas faciles, parce que ça a toujours un petit peu ce nœud à la gorge, parce qu'on sait que c'est vrai. Mais c'est bien fait. Vous verrez, les visuels sont magnifiques et ça donne vraiment envie d'approfondir le sujet qui n'est pas anodin. Voilà.
Merci Jessie. Bah oui, il y a des lectures
qui nous bouleversent.
Ouais. On va écouter de la musique maintenant avec notre choix musical. Ce mois-ci, c'est un nouveau titre de la multi-instrumentiste et chanteuse anglaise Anna Calvi. Il s'agit d'un extrait de son prochain EP, Is This All There Is, un titre rock électrisant qu'elle a enregistré en duo avec quelqu'un que j'adore. Il s'agit d'Iggy Pop. On écoute God's Lonely Man.
Shapeless, shameless, on your back, go so, 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 so. I wanna do more than just survive. I wanna be somebody tonight. I wanna be somebody, cause I'm God's lonely man. Oh. I wore the blue sky Cadillac, climbed back, back to back, tanked up, manned up, smooth talking, love. But no bounding, caged up, time's up, fist up, the night's going so, 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 so. I wanna do more than just survive. I wanna be somebody tonight. I wanna be somebody, cause I'm God's lonely man. Oh, God.
Maintenant, on va parler d'un roman américain, Hystérique Collective. Yonel Shriver est une autrice qui ne fait pas dans la demi-mesure. Après, il faut qu'on parle de Kevin, un roman dévastateur sur la violence scolaire et la maternité face à la violence d'un enfant. Et Apprendre ou à laisser, qui était sur la vieillesse et le choix de fin de vie, elle revient avec Hystérique Collective, un titre qui résonne comme une alerte. Imagine une Amérique où l'intelligence serait devenue une offense. Une société régie par la parité mentale, l'idée que nul ne peut être supérieur à son voisin, ni plus brillant, ni plus doué, ni plus cultivé. Tout doit être simplifié pour que chacun reste à égalité. Exit les examens d'entrée, les films qui célèbrent le génie, les mots trop compliqués, comme sont bannis les mots de jugement comme idiot ou stupide. On abolit toute inégalité intellectuelle. On nivelle, on lisse, on efface. Au cœur de ce roman, Pearson. C'est une professeure de littérature étrangère en Pennsylvanie. Elle est rebelle dans l'âme. Elle a fui sa famille de témoins de Jéhovah à 15 ans et elle refuse de se plier à cette nouvelle doxa. Elle élève d'ailleurs deux enfants issus d'un donateur sélectionné pour son QI exceptionnel. preuve que chez elle, la question de l'intelligence est presque une obsession. Face à elle, son amie Emory, journaliste ambitieuse, qui, elle, s'y adapte, par ambition professionnelle, au début, puis, semble-t-il, par conviction. Et là commence quelque chose d'assez cruel, où l'on ne navigue plus seulement dans la dystopie satirique, mais dans une histoire d'amitié, rongée par l'idéologie et l'opportunisme. Lionel Shriver force volontairement le trait. C'est dans cette société qu'elle imagine, la peur de la différence mène à la censure, à la dénonciation et au nivellement général. Les conséquences deviennent parfois absurdes. Erreurs médicales, accidents d'avion, décisions irrationnelles, car ce sont des idiots qui prennent toutes les décisions. Comme si toute une civilisation prônait l'ignorance et la médiocrité. C'est glaçant et terriblement familier, car derrière la fable, on reconnaît nos propres débats, la cancel culture, le politiquement correct, la tentation du conformisme confortable. Shriver ne choisit pas un camp, elle dérange tout le monde. Le roman peut être agaçant, parfois excessif, et ses personnages sont pas toujours aimables. Pearson elle-même est une héroïne difficile, souvent arrogante, mais c'est aussi ce qui la rend et ce qui rend le livre fascinant. C'est un roman exigeant qui offre une réflexion rare sur ce que nous sacrifions quand nous confondons égalité des droits et effacement des différences. Hystérie collective, c'est à lire pour être bousculé et pour se demander, le livre fermé, jusqu'où nous serions prêts à aller pour ne froisser personne.
Eh bien, dis donc, ça donne envie parce que j'ai l'impression que ça touche des sujets d'actualité.
Exactement. Non, c'est un livre assez fort. Pas très, très. Enfin, il est exigeant, hein, il n'est pas facile à lire.
Exigeant.
Mais. Souvent on se dit, ouais, c'est fort quand même. Non, il est bien.
Bon, ben, je vais à la bibliothèque le chercher. Moi, je vais changer de thème en vous parlant d'une BD très touchante qui s'appelle La tête dans les nuages d'Emmanuel Friedman et Céline Bayeux. On y rencontre une petite fille rêveuse, très rêveuse. Le genre d'enfant qui regarde les nuages par la fenêtre pendant que la maîtresse explique les additions. Et au début, tout va bien, enfin à peu près. Mais arrive la grande étape, la rentrée au CP. Et là, les difficultés commencent. La concentration, la tension, le rythme de la classe. Ça devient compliqué. Alors, les parents s'inquiètent un peu. Puis beaucoup, puisqu'on est parents avant tout. Et là, je pense que beaucoup de parents qui nous écoutent vont reconnaître quelque chose. La grande tournée des spécialistes. On commence par en voir un, puis un autre. Psychologue, orthophoniste, médecin. Chacun pose des questions, observe, teste. Et pendant ce temps-là, les parents oscillent entre inquiétude, espoir et parfois un peu de culpabilité aussi. On se demande toujours, est-ce qu'on a raté quelque chose ? La BD raconte très bien ce parcours-là, avec beaucoup de justesse. Et puis un jour, le diagnostic tombe et tout s'éclaire un peu. Je ne vous dévoile pas tout, mais ce moment est très beau dans le livre, parce qu'il ne s'agit pas d'une étiquette, mais plutôt d'une clé pour mieux comprendre l'enfant. Les illustrations de Céline Bayeux sont magnifiques, très douces, pleines de poésie. Vous savez à quel point j'y apporte beaucoup d'importance, parce que pour moi, c'est la première chose que je regarde quand je prends une BD. Donc là, c'est magnifique, vous verrez. Et il y a cette phrase qui résume bien l'esprit du livre. Certains disent qu'elle rêve trop. Elle, elle dit qu'elle voit plus loin. C'est une BD très tendre, très juste, qui parle d'enfance, de différence et surtout d'acceptation. Et je pense que beaucoup de parents s'y reconnaîtront. Parce qu'au fond, ce livre nous rappelle simplement que chaque enfant à sa manière d'être au monde. Alors, moi, je suis maman, vous le savez, et cette BD, elle me parle parce que ma fille a fait sa rentrée en CP cette année, et je crois que comme beaucoup de parents, quand ils ne sont pas dans un moule, et ben, du coup, on nous pose des questions, donc du coup, j'ai le droit à l'orthophoniste aussi, alors que simplement, elle a besoin de prendre son temps. Donc là, je pense à beaucoup de parents qui sont sûrement comme moi, qui se posent des questions parce qu'on ne connaît pas bien le programme scolaire, parce qu'on se pose plein de questions, en fait, et on en met vite en question. C'est notre faute. Voilà. Donc moi, ma fille, tout va bien, mais je sais qu'il y a d'autres parents qui peut-être sont dans la même situation. Et cette BD, vous verrez, elle vous fait du bien, en fait. Parce que, elle pointe du doigt la réalité. Chaque enfant est différent.
Voilà. Et d'une manière très fine. Elle le fait intelligemment. Merci, Jessie. Alors, on va terminer par un polar. Hein. Le polar du mois, c'est Le Chant des Méduses d'Otto Olvanji. Alors, vous ne le connaissez pas certainement, c'est son premier roman qui est traduit en France. Et il y a des romans policiers qui cherchent le coupable, et puis il y a ceux qui cherchent quelque chose de plus trouble. Ce qu'un pays fait à ses habitants, Le Chant des Méduses, appartient résolument à cette deuxième catégorie. Nous sommes à Belgrade aujourd'hui. Il pleut souvent. Et le narrateur qu'on appelle simplement le sceptique. C'était le titre d'une rubrique qu'il tenait quand il était journaliste. Il erre dans la ville comme dans sa propre vie. Divorcé, collectionneur de vinyles, il a raté son mariage, peut-être sa carrière, mais pas son regard. Un regard sarcastique, précis, profondément mélancolique. Un jour, un vieil ami lui demande de retrouver sa femme, Mariana. disparu depuis 10 ans, sans un mot, sans laisser de trace. Une fugue amoureuse, croit-on. Jusqu'à ce que l'amant supposé affirme qu'il l'attend toujours. Et là, tout vacille, car le sceptique découvre bientôt qu'une autre femme a disparu avant Mariana, sa mère, 30 ans plus tôt, à Rovinje, sur la côte croate. Deux femmes effacées, deux générations et deux époques, la Yougoslavie socialiste d'hier, la Serbie et la Croatie d'aujourd'hui. À partir de là, le roman devient un jeu de miroir, fascinant. L'enquête avance par détours, parfois à contre-courant, et c'est précisément ce qui fait sa force. On pense au roman noir américain, à Chandler, pour la structure en tiroir. Mais aussi au polar balkanique contemporain, très politique, où l'intrigue sert à radiographier une société. Car derrière les disparitions, Odvanji raconte autre chose, la permanence des élites corrompues, les privatisations, les compromissions, les silences, et surtout la solitude des femmes dans un monde d'hommes, et la tristesse des enfants à qui l'on ne dit rien. Ce qui frappe, c'est la voix, drôle, acide, tendre aussi, un humour au scalpel, et une mélancolie qui imprègne chaque page. Le sceptique se décrit comme Belgrade, grise, fatiguée, aux contours flous. Et on le suit, irrésistiblement, dans ce paysage hanté de secrets et de fantômes. Le Chant des Méduses n'est pas seulement un très bon polar, il est original, troublant, il dépasse largement le simple suspense. C'est aussi une plongée dans les zones d'ombre de l'Europe de l'Est contemporaine. Et c'est un roman qui reste. Un premier roman d'Otto Vanji, comme je disais, traduit en France, et qui donne très envie de suivre ses prochaines enquêtes.
Eh bien, ouais. Intéressant vie, ça.
Ouais,
tout à merci Anne.
Eh bien, on arrive déjà au terme de cette émission. Pour les événements, il y en a beaucoup. Samedi 14 mars, demain, à 15h, une conférence interactive sur Last Action Heroes, les héros aux muscles et testo, le cinéma d'action des années 80. Du Vietnam à Reagan, retour sur la décennie qui a vu naître les mythiques Rambo, Alien, Predator, Robocop et bien d'autres encore. Samedi 28 mars ensuite, à la bibliothèque Saint-Corneille, auront lieu les Cités Philo, le festival de philosophie avec plusieurs conférences, débats et tables rondes. À 14h, on aura la première sur les écrans, un désastre sanitaire. Il est encore temps d'agir. Comment la médecine peut-elle éclairer le véritable coût humain de cette emprise des écrans et nous aider à agir ? À 16h, la deuxième, la grâce politique du monastère, une utopie pour notre temps. Une enquête sur cette utopie concrète qui interroge nos manières de vivre et de décider ensemble. Et enfin, la troisième, avec Hugo Paletta, comment le racisme gagne la France. Une invitation à mieux comprendre ce phénomène et à réfléchir collectivement à ses conséquences. On vous invite à venir nombreux. Et n'oubliez pas, du 27 mars au 5 avril aura lieu la 4e édition du Festival Parole, avec des spectacles, des rencontres d'auteurs, un salon du livre, l'occasion de rencontrer notamment Cécile Coulon, dont j'avais parlé à la dernière émission pour son très beau roman Le visage de la nuit. Et il y aura aussi Mathias Malzieux, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, Serena Giuliano et Alexia Strezi qui feront une table ronde, Valentine Gobi, Christopher Lachiez qui vient d'écrire un superbe roman dont je parlerai une prochaine fois, et Colombe Schneck. Enfin, on se retrouvera alors pour notre apéroculture le vendredi 20 mars à 18h à la bibliothèque Saint-Corneille. Et le samedi 21 mars à 16h avec notre nouvelle animation cinésique, la playlist des bibliothèques, où on parlera cinéma et musique. Et notre prochaine émission aura lieu le vendredi 10 avril pour une spéciale série. On parlera de séries télé. N'hésitez pas, si jamais vous voulez participer à une de nos émissions, à nous contacter, Jessie ou moi, dans les bibliothèques de Compiègne. On vous souhaite à tous un très bon week-end. Merci beaucoup à toi, Jessie.
Merci à toi, Anne. C'était un grand moment encore. À bientôt.